Bonjour à tous. Comment allez-vous? Bien? La semaine dernière, nous étions ensemble et nous avons vu que nous avons un Dieu qui nous appelle. Et j'espère que chacun de nous s'est senti appelé la semaine dernière, que chacun de nous a entendu cet appel de Dieu. Mais nous avons vu que nous avons un Dieu qui nous appelle pour nous envoyer. Nous avons vu ce Dieu qui appelle Moïse pour l'envoyer libérer son peuple de l'esclavage. Et nous avons vu que Moïse a déjà deux objections. Deux objections qui sont plutôt saines. La première, c'était « Mais qui suis-je ? Qui suis-je pour faire ce que tu me demandes ?» Et nous y avons vu l'humilité de celui qui était auparavant un prince égyptien, un libérateur autoproclamé, et qui est devenu un simple berger, quelqu'un qui n'a plus aucune prétention. La seconde objection était « Mais toi, qui es-tu ? Qui dois-je annoncer ?» À ces deux questions, Dieu a répondu « Je suis ». C'est pas très grave qui tu es. Ce qui est important, c'est qui je suis. Je suis celui qui est le Dieu éternel. Vous me suivez ? Là, sinon, c'est pas très grave. La prédication est enregistrée. Vous pouvez la suivre sur Internet. Et je remercie Serge et Daniel qui, fidèlement, dimanche après dimanche, nous permettent d'avoir ces enregistrements. Mais aujourd'hui, nous allons continuer d'étudier cette rencontre de Dieu avec Moïse. Et nous allons maintenant voir quatre attitudes qui nous détournent de notre appel à annoncer l'Évangile. Nous allons lire à partir du chapitre 3 au verset 16, et puis nous avons un long texte devant nous, jusqu'à 4. Je m'arrêterai. Va rassembler les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je m'occupe de vous et ce qu'on vous fait en Égypte. J'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez dans le pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phéréziens, des Héviens et des Jébusiens, un pays où coule le lait et le miel. Ils t'écouteront. Tu iras avec les anciens d'Israël trouver le roi d'Égypte et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, s'est présenté à nous. Permets-nous maintenant de faire trois journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir à moins d'y être contraint par une forte intervention. J'interviendrai et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que j'accomplirai au milieu d'elle. Après cela, il vous laissera partir. Je gagnerai même la faveur des Égyptiens à ce peuple. Et quand vous partirez, vous ne partirez pas les mains vides. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui séjourne chez elle des vases d'argent, des vases d'or, des vêtements. Vous les ferez porter par vos fils et vos filles et vous dépouillerez les Égyptiens. Moïse répondit, ils ne me croiront pas. Ils ne m'écouteront pas. Au contraire, ils diront, l'Éternel ne t'est pas apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main ? Il répondit, un bâton. L'Éternel dit, jette-le par terre. Il le jeta par terre et le bâton se changea en serpent. Moïse prit la fuite devant lui. L'Éternel dit à Moïse, tends la main, prends-le par la queue. Il tendit la main et l'attrapa. Le serpent redevint alors un bâton dans sa main. L'Éternel dit, voilà ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main sur ta poitrine. Il mit sa main sur sa poitrine, puis la retira. Et voici que sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main sur ta poitrine. Il remit sa main sur sa poitrine, puis l'en retira. Et voici qu'elle était redevenue normale. L'Éternel dit, s'ils ne te croient pas et n'écoutent pas le message du premier signe, ils croiront à celui du dernier signe. S'ils ne croient toujours pas, même avec ces deux signes, et ne t'écoutent pas, tu prendras de l'eau du fleuve. Tu la verseras sur la terre, et l'eau que tu auras prise dans le fleuve se chargera en sang sur la terre. » Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler, et cela ne date ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même du moment où tu as parlé à ton serviteur. En effet, j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a donné une bouche à l'homme ? Qui rend sourd ou muet capable de voir ou aveugle ? N'est-ce pas moi, l'Éternel ? Maintenant, vas-y, je serai moi-même avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devras dire. » Moïse dit, « Ah Seigneur, quelqu'un d'autre que moi. » Alors la colère de l'Éternel s'enflamma comme Moïse. Il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite ? Je sais qu'il parlera facilement, lui. Le voici même qui vient à ta rencontre. Quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. » Excusez-moi. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous devrez faire. C'est lui qui parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche et tu lui tiendras place pour lui de Dieu. Prends ce bâton dans ta main, c'est avec lui que tu accompliras les signes. Moïse s'en alla de retour chez son beau-père Jéthro et lui dit, « Laisse-moi retourner vers mes frères qui sont en Égypte pour voir s'ils sont encore en vie. » Jéthro dit à Moïse, « Vas-y en toute tranquillité. » L'Éternel dit à Moïse dans le pays de Madian, « Vas-y, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. » Moïse prit sa femme, ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna en Égypte. Il prit à la main le bâton de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, « En partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que j'ai mis dans ta main. Tu les feras devant le Pharaon. De mon côté, j'endurcirai son cœur et il ne laissera pas partir le peuple. Tu annonceras au Pharaon, « Voici ce que dit l'Éternel. Israël est mon fils aîné. Je t'ordonne de laisser partir mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, je ferai mourir ton fils aîné. » Pendant le voyage à l'endroit où il passait la nuit, l'Éternel l'attaqua et chercha à le faire mourir. Séphora prit une pierre tranchante, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, « Tu es pour moi un mari de sang. » Alors l'Éternel le laissa. C'est à ce moment-là qu'elle dit « mari de sang » à cause de la circoncision. L'Éternel dit à Aaron, « Va dans le désert à la rencontre de Moïse. » Aaron partit, il rencontra Moïse à la montagne de Dieu et il l'embrassa. Moïse informa Aaron de toutes les paroles de l'Éternel, celui qui avait envoyé, de tous les signes qu'il avait ordonné d'accomplir. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin et rassemblèrent tous les anciens des Israélites. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et accomplit les signes sous les yeux du peuple. Le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel s'occupait des Israélites, qu'il avait vu leur souffrance. Ils se prosternèrent et adorèrent. Jusque-là. Nous avons dans ce début de texte maintenant une feuille de route qui est donnée par Moïse avec des instructions très détaillées. Et je ne vais pas rentrer dans les détails sur cette première partie de texte, mais je voudrais juste relever quelques points. Peut-être le premier, c'est la conformité exemplaire de la promesse que Dieu fait à Abraham en Genèse 15 avec ce que la feuille de route que maintenant Dieu présente à Moïse. Nous y retrouvons les 400 ans qui sont maintenant écoulés, nous y retrouvons le jugement de l'Égypte, l'enrichissement du peuple au détriment de l'Égypte, la destination du peuple de Canaan. Dieu va agir conformément à son alliance. La deuxième chose que je voudrais remarquer, c'est l'omniprésence du « je » dans la feuille de route que Dieu donne à Moïse. Il lui dit « va », mais en fait, il n'arrête pas de lui dire « je ». Regardez, verset 16, « je m'occupe de vous ». Verset 17, « j'ai dit « je vous ferai monter ». Verset 19, « je sais ». Verset 20, « j'interviendrai, je frapperai, je gagnerai ». Et ça nous rappelle que c'est Dieu qui va accomplir la promesse faite à Abraham. Dieu n'est pas en train de se décharger sur Moïse, il est en train de l'inclure dans son plan et dans ce que lui va faire. Troisième observation, c'est la connaissance de Dieu sur tout ce qui va se passer. Notez le ton que Dieu utilise. Il dit, j'ai dit, je vous ferai monter, ils t'écouteront, tu iras, je sais, j'interviendrai, etc. Le temps est définitif. Il n'est pas en train de dire, bon voilà, on va faire ça, puis on verra bien comment ça va se passer, comment ils vont réagir. Première tentative. C'est pas non plus dans le sens, tu verras, tout va bien se passer, ça va aller. Non, il lui donne un déroulé précis, non seulement de ce qui va se passer, mais aussi de ce qu'il va devoir faire pour que les choses se passent telles qu'elles vont se passer. Oui, je sais, la phrase est un peu longue et un peu compliquée. Dieu sait. Non seulement il sait ce qui va se passer, mais il sait ce qu'il va devoir faire pour que cela se passe ainsi. Il est pleinement souverain sur la situation. Quatrième observation. 3 journées de marche dans le désert. Oh ! Et ça vous étonne pas, ça ? Et c'était pas ça, le deal. Le deal, c'était de libérer son peuple. Hein. C'était pas d'aller faire 3 journées de marche dans le désert. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Il semble que ce soit le début des négociations. En fait, Moïse ne va pas aller voir le pharaon en disant « Libère mon peuple !» Parce que pour Pharaon, c'était renoncer à des esclaves qui étaient en train de bâtir ces villes et des palais, et c'était inacceptable. Mais le point de Dieu, c'était pas du tout ça. C'était de montrer que Pharaon s'opposait à Dieu lui-même, et il lui propose quelque chose de très acceptable. Il lui dit, mais écoute, je te demande juste 3 jours pour qu'ils aillent adorer leur Dieu dans le désert. Et en fait, par cette première déclaration, il révèle le cœur de Pharaon. Pharaon n'est pas en opposition avec la perte de ses esclaves, il est en opposition directe avec Dieu. Le contraste est encore plus saisissant parce que juste avant, il vient de dire que les anciens du peuple écouteront. Et ensuite, il dit, le Pharaon, lui, il n'écoute pas à moins d'y être contraint avec force. Et cette introduction, en fait, nous donne finalement une présentation de Dieu à Moïse, une présentation de Dieu à nous aujourd'hui. Voilà notre Dieu. Ce Dieu qui nous appelle et qui nous envoie pour libérer son peuple, pour annoncer l'évangile à ceux qui sont perdus, pour les racheter de l'esclavage de Satan, c'est ce Dieu, un Dieu souverain, puissant, qui accomplit la mission dans laquelle il nous envoie. Comment réagissons-nous à cet appel? Et je vous propose de regarder 4 attitudes qui nuisent à notre appel. L'attitude numéro 1, je doute de Dieu. Au chapitre 4, au verset 1, ils ne me croiront pas, ils ne m'écouteront pas. Au contraire, ils diront, l'Éternel ne t'est pas apparu. Et ce qui est frappant avec cette objection, c'est qu'elle vient précisément après l'affirmation de Dieu qui lui disait « Ils t'écouteront ». Non, Dieu, toi tu ne les connais pas les Égyptiens. Toi tu ne les connais pas mes voisins. Tu as tort. Ils ne m'écouteront pas. Moi je sais ce qu'ils diront. Qu'est-ce qui n'était pas clair dans l'affirmation de Dieu quand il lui a dit « Ils t'écouteront ». C'était limpide, c'était simple. Si nous regardons l'appel de Jésus à ses disciples dans Matthieu 28, au verset 18, Jésus s'approche de ses disciples et il leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais j'ai plus souvent des difficultés avec les passages clairs de la parole de Dieu qu'avec les obscurs. Mon problème n'est pas de ne pas comprendre. Mon problème est de douter de Dieu. Dieu vient de dire qu'ils écouteraient. Mais vont-ils vraiment le faire? Comment peut-il savoir? Dieu peut-il vraiment faire ça? Est-ce que Dieu peut faire en sorte qu'ils l'écoutent? Qu'ils écoutent celui qu'ils ont rejeté comme chef? qu'ils écoutent celui qui a fui l'Égypte pendant tant d'années. Et nous, en quoi est-ce que nous doutons de la parole de Dieu lorsqu'il nous dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre » Est-ce que nous écoutons Dieu? Ou est-ce que nous savons « Non, tu ne peux pas faire ça » Est-ce que nous doutons quand Dieu dit « Je suis avec vous » Ou est-ce que nous disons « Non, je suis encore une fois tout seul » Est-ce que nous en comprenons les implications? Dieu peut incliner les cœurs de nos voisins, de nos amis, de nos collègues à écouter le message qu'il nous confie. Est-ce que nous croyons qu'il est là quand nous témoignons? Qu'il connaît parfaitement les situations de chacun? Qu'il connaît aussi les refus qui nous seront opposés? Il n'est ni surpris, ni ébranlé par cela. Vous savez, un jour, tout genou fléchira devant Jésus, y compris Pharaon. Aujourd'hui, c'est un appel de grâce. Un jour, ce sera de force, mais tous écouteront et abdiqueront devant Dieu. Mais dans sa grâce, Dieu entend le manque de foi de Moïse et il lui donne trois signes. Le premier, c'est celui du bâton qui se change en serpent et qui se change à nouveau en bâton. Et voilà ce que Dieu peut faire d'un simple bâton. Tu doutes de moi? Un simple bâton. Regarde ce que je peux en faire. Et ce bâton, tu le prendras avec toi, il lui dit au verset 17. Et tu te rappelleras de ce que je peux faire d'un bâton. Avec lui, tu accompliras des prodiges. Le second, c'est celui de la lèpre. Après le bâton, Dieu s'en prend au bras de Moïse avec une maladie qui était redoutée, reconnue comme incurable. Instantanément, il est malade. Instantanément, il est guéri. Et ce bras, il sera avec toi. Tu te rappelleras de ce que je peux faire. Et le troisième signe, celui de l'eau qui est prise dans le Nil et qui est changée en sang. Un signe qui évoquera la première des plaies. Lorsque le pharaon aura dit non, lorsque la mission va devenir difficile, lorsque les gens auront besoin de croire que Moïse est bien celui qui est envoyé par Dieu. Dieu le rassure. Peut-être qu'ils ne te croiront pas ou qu'ils ne t'écouteront pas au premier signe. Mais au final, ils te croiront. Ils croiront que ta parole est ma parole. Dans la Bible, les miracles ont en très grande majorité pour fonction d'authentifier la parole de Dieu. Les miracles ne créent pas la foi. Ils attestent que c'est le Dieu des cieux, le Dieu éternel, le Dieu qui s'appelle « Je suis » qui est en train de parler. Pourquoi ? Pour que l'on se soumette à sa parole. L'invitation est pour le Pharaon de reconnaître Dieu, de lui obéir. Pour les Hébreux, qu'ils aillent l'adorer dans le désert. Mais Pharaon ne veut pas d'un rival. Il est lui-même son propre Dieu. Il ne désire se soumettre à personne. La parole de Dieu entière est attestée par la puissance de Dieu. Le ministère de Jésus est validé par les miracles qu'il accomplit, qui accompagnent sa vie. Son œuvre est attestée par sa mort et sa résurrection, par ce tombeau trouvé vide, par ces témoins qui ont pu témoigner qu'ils avaient rencontré Christ vivant. Les apôtres et leurs enseignements sont attestés par les miracles qui ont accompagné leur ministère. Dieu nous parle par sa parole et elle est vraie. Il nous appelle à le suivre. Est-ce que nous croyons Dieu ou est-ce que nous doutons de lui? Est-ce que quand nous lisons notre Bible, nous disons oui, c'est vrai, même si j'ai du mal à y croire, ou est-ce que nous rejetons la parole de Dieu? Attitude numéro 2. Après avoir douté de Dieu, je doute de moi. La semaine dernière, nous avions vu que Moïse avait objecté, il avait dit mais qui suis-je finalement pour aller en Égypte? Et Dieu l'avait rassuré en lui disant mais écoute, c'est ok que tu ne sois pas capable. En fait, c'est moi qui vais faire le travail, je te demande juste de répéter ce que je vais dire. Alors Moïse a une nouvelle objection. Bon, j'ai bien compris que tu ne me demandes pas d'aller lever une armée, j'ai bien compris que c'est toi qui vas frapper l'Égypte. Mais tu sais, ça tombe vraiment mal. Parce que moi, j'ai un problème avec les discours. En fait, je n'ai pas très bien parlé. Je ne suis pas très éloquent. En fait, tu vois, ce n'est pas une excuse que j'invente là parce que ça ne date pas d'hier ou d'avant-hier. En fait, depuis que je suis tout petit, j'ai du problème avec la voix. Certains traducteurs pensent qu'il bégayait. En fait, on ne sait pas exactement. En fait, il me semble que Dieu ne veut pas mettre l'accent sur un handicap particulier, mais qu'il veut nous montrer que Moïse a une vraie bonne excuse à présenter devant Dieu. Il a vraiment un problème avec la mission que lui donne Dieu. Il ne peut pas la remplir. Ça ne peut pas le faire, Dieu. Tu me demandes juste ce que je ne peux pas. Tout le reste, c'est OK. Mais parler, ça tombe vraiment mal. Hein. Ça, je ne peux pas. Mais Dieu ne cherchait pas un homme éloquent, pas plus que ce n'était la qualité qu'il avait recherchée chez Paul. Les Corinthiens semblent dire qu'il était plutôt mauvais comme prédicateur, en tout cas comparé à Apollos. Ils disent de Paul en 2 Corinthiens 10:10, « Ses lettres sont sévères et fortes, mais quand il est présent, il est faible. Sa parole est méprisable. » Waouh ! Quel compliment ! Mais encore une fois, dans sa grâce, Dieu va répondre à l'objection de Moïse. Qui a donné une bouche à l'homme? Qui rend muet ou sourd, capable de voir ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Maintenant, vas-y. Je serai moi-même avec ta bouche. Je t'enseignerai ce que tu devras dire. D'abord, il lui rappelle qu'il est bien au courant de son problème, que c'est lui le Créateur. C'est lui qui lui a donné cette bouche qui lui pose 30 problèmes. Dis, Moïse, quand tu dis que ta bouche ne va pas, juste, n'oublie pas que c'est moi qui te l'ai donnée. Peut-être que, comme Moïse, finalement, nous avons un handicap, une gêne physique, psychique, intellectuelle, et qu'on se sert de cela pour dire, mais moi, je ne peux pas. Je ne peux pas servir, je ne peux pas faire ce que tu me demandes. Je ne suis pas assez intelligent. J'ai pas assez de force. Je suis fatigué du matin au soir. Je boite, je bégaye. Je suis trop âgé maintenant. Je suis trop jeune. J'ai pas assez d'expérience. Et Dieu vous dit, je sais. Je suis au courant. Je t'ai fait comme ça. Je connais chaque chromosome de ton ADN. Et j'ai pas de problème avec ça. Parce que je serai avec toi. Je serai ta bouche. Je te dirai ce que tu dois dire. J'ai pas de problème avec ça. Ne t'inquiète pas de ce que tu ne peux pas. Fais-moi confiance, je peux. Je serai ton bras, ton œil, ta force, ta sagesse. Tu n'es pas seul. Je m'engage avec toi. Ne dites pas je ne peux pas, parce que Dieu peut. Nous pouvons porter le message de Dieu, car la puissance de l'Évangile ne dépend pas de la façon dont le message est délivré. Nous sommes dans une culture où, quelquefois, la forme a pris le pas sur le fond. L'important n'est pas ce que vous dites, mais l'important, c'est vraiment comment vous le dites. Pourvu qu'il y ait des images, de la musique, peu importe le contenu. Nous sommes quelquefois plus sensibles à l'éloquence d'un discours qu'au message lui-même. Il suffit d'écouter nos politiques. Des fois, on est beaucoup plus captivé par le personnage que par le fond de son discours. Mais il semble que Dieu ait choisi un porte-parole avec peu de facilité de langage. Quelle ironie! Mais au moins, le message se distingue du messager. De la même façon, nous ne devons pas avoir peur de ne pas être à la hauteur pour présenter l'Évangile. Le message doit se distinguer du messager. Nous ne devons pas avoir peur de ne pas avoir les bons mots. Jésus nous fait une promesse très similaire à celle qu'il fait à Moïse. Lorsqu'il envoie ses disciples, il leur dit « À cause de moi, vous serez conduits devant les gouverneurs, devant les rois, pour leur apporter votre témoignage à eux et aux non-juifs. Mais quand on vous fera arrêter, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné au moment même. » Aujourd'hui, en Occident, nous ne risquons pas de nous faire arrêter, mais nous serons peut-être bien l'objet de moqueries, de dérisions, de rejets. Et peut-être que nous ne sommes pas des beaux parleurs pour nous en tirer bien à chaque fois. Peut-être que nous aurons du mal à nous tirer de ces situations-là. Mais la promesse de Jésus est la même. Je suis là. C'est moi qui te dirai ce que tu dois dire. N'aie pas peur. Attitude numéro 3. Je ne veux pas. En fait, nous arrivons au vrai cœur du problème quand on est au verset 13. Dieu lui a déjà dit 3 fois d'y aller. Vas-y. Vas-y, maintenant, vas-y. Mais cette fois, Moïse est plus affirmatif. Je ne veux pas y aller. Envoie quelqu'un d'autre. Et c'est la première fois ici que nous voyons la colère de Dieu s'enflammer contre quelqu'un. Même avec Jacob, on ne voit pas ça. C'est vous dire comment Dieu a reçu l'intention de Moïse. Ça suffit, Moïse. Ça suffit, tes excuses. Dieu s'est révélé à Moïse comme le grand Dieu éternel. Mais cela ne suffit pas pour Moïse. J'ai ma vie ici maintenant. Ça fait 40 ans que je suis là, j'ai une femme, des enfants, un métier. J'ai 80 ans. Je veux continuer à vivre ma vie tranquille. J'ai pas envie de devenir ton prophète. J'ai pas envie de parler pour toi. J'ai pas envie d'aller voir les Égyptiens. J'ai pas envie de me présenter devant Pharaon. J'ai pas envie d'être ce libérateur que tu veux que je sois. Cette espèce de porte-parole qui sert pas à grand-chose finalement. T'as qu'à le faire toi-même. Ou envoie quelqu'un d'autre. Mais voici la réponse de Dieu. Dieu savait et Dieu avait déjà tout prévu. Hé, Moïse, Aaron est déjà en route. C'est un Lévite. Et tu sais, les Lévites, c'est l'élite en Israël. Ils sont éduqués, pas de problème. Il sait parler, il parlera facilement à Pharaon. Et puis tu sais, il sera heureux quand il te verra. Il sera ton prophète. Et toi, tu seras son Dieu. Et en même temps, finalement, que Dieu lui dit qu'il a déjà pourvu à son objection, il lui dit, mais je ne t'envoie pas juste comme un simple rien, c'est pas rien ce que je te demande. Je serai avec toi. J'envoie Moïse. Tu seras son Dieu et je serai. Il sera ton prophète. Dieu enseigne Moïse sur ce que c'est qu'un prophète. Il dit, mais je ne suis pas en train de vouloir faire appel à ta créativité, à tes capacités de discours. La prophétie n'est pas le fait de dire ce que l'on pense, mais de dire ce que Dieu dit. Dieu met ses mots dans la bouche des prophètes. Moïse, tu mettras mes mots dans la bouche d'Aaron, il dira exactement ce que je t'ai dit de dire. La deuxième chose que nous voyons, c'est que Dieu n'avait pas prévu de pallier au problème d'élocution de Moïse. Il n'est pas en train de lui dire, t'inquiète pas, tu vas voir, ça va aller. Tu vas arriver, tu ne bégayeras pas devant Pharaon. Tu es en train de dire, j'ai un autre plan pour toi. Ma mission, c'est que tu donnes mes mots à Aaron et c'est lui qui parlera. Je serai là, je vous enseignerai. Dieu encourage Moïse alors que Moïse est en train de tester la patience de Dieu. Est-ce que nous sommes en train de tester la patience de Dieu ce matin ? Dieu nous pousse à rencontrer des personnes, il les place sur notre chemin. Et nous lui disons, envoie quelqu'un d'autre. Comme Moïse, nous avons fait notre vie. Nous avons un travail, des enfants, des petits-enfants, des rencontres à l'église, tant de choses à faire. Alors nous disons, envoie quelqu'un d'autre. Je ne suis pas fait pour ce job-là. Il y a des pasteurs, des anciens, des missionnaires que l'on paye pour ça. Envoie quelqu'un d'autre. Posons-nous 2 questions ce matin. La première, c'est comment est-ce que nos activités peuvent servir à témoigner pour Dieu plutôt que de résister à l'appel de Dieu ? La même activité peut être une résistance à l'appel de Dieu comme elle peut être un outil pour témoigner pour Dieu? Comment est-ce que mes activités sont une réponse à l'appel de Dieu ou sont une résistance à l'appel de Dieu? Envoie quelqu'un d'autre. Et quelles sont les personnes que Dieu a mises sur ma route pour lesquelles, jusqu'à aujourd'hui, j'ai dit non à Dieu? Trouve un autre pour aller lui parler. Vous savez, vos collègues de travail, ce n'est pas un hasard. Vos familles, ce n'est pas un hasard. Vos voisins, ce n'est pas un hasard. Personne n'est un hasard dans notre vie. Dieu l'a rappelé, il est souverain. Et si c'est votre voisin, c'est parce que Dieu vous a envoyé auprès de lui. Oh, peut-être qu'il dira non. Peut-être qu'il sera pire que Pharaon. Mais Dieu le sait déjà. Ne soyons pas découragés. Dieu veut nous accompagner, nous conduire, nous aider. Nous ne sommes pas seuls. Dieu nous donne des frères, des sœurs pour nous aider. Et les groupes de maison sont vraiment un bon lieu pour prier pour nos voisins, pour nos familles, pour nos amis, pour que Dieu nous guide dans notre témoignage envers eux. Et puis c'est aussi la raison pour laquelle nous organisons des cultes comme celui de Pâques ou celui de Pentecôte dans 15 jours, pour que nous puissions inviter à ces cultes découvertes. Le prédicateur sera votre Aaron. Il parlera à vos amis de la part de Dieu pour vous. Attitude numéro 4. Je suis négligent avec les commandements de Dieu. Il y a une quatrième raison qui peut nous stopper dans notre mission, et nous la voyons à partir du verset 19. Moïse a finalement accepté de prendre la route, il est allé prévenir Jéthro, il part en Égypte, et on se dit, ça y est, on est parti, on y va. Et voici que le texte nous dit que Dieu l'attaque pendant la nuit pour le tuer. Et là, on a un peu de mal à suivre. On dit, mais c'est pas possible. Tant que Moïse résiste, qu'il dit non, Dieu est doux avec lui, il teste sa patience, il lui dit, mais après tous les arguments, mais envoie quelqu'un d'autre, et Dieu est patient avec lui, il argumente, il répond à ses prières, même si on se dit, mais c'est quand même pas très légitime, quoi. Et là, alors qu'il est en route, Dieu l'attaque et veut le tuer. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu n'était pas parfait. Pardon. Lis tes notes. C'est bien, il y a trois qui suivent. Ouh, les autres jaunes. Moïse n'était pas parfait. Il avait été négligent avec le commandement de Dieu. Vous savez comment Dieu s'est présenté la plupart du temps quand il lui a parlé dans tout ce discours? On se dit, mais il se répète, c'est pas possible, c'est lourd. Il n'arrête pas de lui dire, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Si, mais c'est bon, on a compris. T'es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu te plains d'autres encore. Mais en faisant ça, il lui rappelait qu'il était le Dieu de l'Alliance. Le Dieu qui avait fait alliance avec Abraham, qui l'avait renouvelé avec Isaac, qui l'avait renouvelé avec Jacob. Et quel était le signe de cette alliance? C'était la circoncision. Et Moïse était au courant de ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a circoncis un de ses fils, mais pas l'autre. Il a été négligent. Pouf. Ok, on est fait un, c'est déjà pas mal. Ça joue. Dieu s'attaque à Moïse. Et il faut que sa femme fasse le job. Il faut que sa femme circoncie le fils pour qu'il ne meure pas. Dieu rappelle à Moïse qu'il doit obéir à ses directives. La circoncision va être demandée à tout le peuple à la sortie d'Égypte. Comment est-ce que le peuple va pouvoir suivre quelqu'un qui ne pratique pas ce qu'il dit, qui ne fait même pas ce qu'il dit dans sa propre famille? Il en est de même pour nous. Nous ne pouvons pas porter la parole de Dieu si nous sommes négligents avec les grands commandements de Dieu. Bien sûr que nous ne sommes pas parfaits, et Dieu le sait. Mais cela nous encourage à ne pas être négligents avec les grands commandements de Dieu. Nous le savons, lorsque nous témoignons, nous sommes regardés. Et c'est peut-être la principale raison qui nous retient. Dieu connaît nos faiblesses, il nous accompagne dans sa grâce. Il est d'une puissance, d'une patience remarquable avec nous. Il comble nos faiblesses. Il nous rend capables. Mais il nous appelle à ne pas être négligents avec ses commandements. Regardons aujourd'hui. Y a-t-il une situation ou un péché dans nos vies qui nous retient en arrière, qui nous empêche de témoigner? Réglons cela tout simplement avec Dieu. Et puis proclamons la grâce de celui qui nous a sauvés. Et je voudrais conclure avec les derniers versets qui devraient être un encouragement à nous engager avec Dieu. Tout se passe exactement comme Dieu l'avait dit. Il rencontre Aaron, il lui raconte tout, Aaron se réjouit, ils vont en Égypte, ils rapportent les paroles que l'Éternel avait dites. Que se passe-t-il? Le peuple croit, ils comprennent que Dieu s'occupe d'eux, qu'il a vu leur souffrance, ils se prosternent et ils adorent. Amen. Alléluia. Waouh! Waouh! En quatre lignes, c'est fait. Trois chapitres de résistance, quatre lignes, et c'est fait. Dieu promet que sa parole ne revient pas à lui sans l'effet pour lequel elle a été envoyée. La parole de Dieu rencontre le peuple de Dieu. Ils croient, ils sont rassurés, ils adorent Dieu. Voilà ce que produit la parole de Dieu dans les cœurs de ceux qui crient leur désespoir vers Dieu. Il promet que sa parole ne revient pas à lui sans effet, mais il ne dit pas toujours quel sera l'effet. Et on verra très rapidement quel sera l'effet sur Pharaon. Si vous avez encore quelques minutes, je suis conscient d'être assez long ce matin, je voudrais vous lire juste une illustration que je viens de lire dans un livre de Brian Chappell qui s'appelle « Grâce infinie », qui n'est pas encore disponible en librairie, mais ça va arriver, que je vous encourage à acheter quand vous le verrez. Et cette illustration nous dit comment est-ce que Dieu fait grâce dans nos vies quand nous nous engageons pour le servir. Il était une fois un roi qui, regardant par la fenêtre, aperçut l'un de ses enfants qui cueillait des fleurs dans le champ au loin. Le roi vit l'enfant cueillir des fleurs et les entourer d'un ruban aux couleurs royales. Il sourit, car le ruban signifiait que ces fleurs lui étaient destinées. Elles étaient un cadeau destiné à lui plaire. Le roi remarqua ensuite que l'enfant, parce qu'il était encore jeune, ne cueillait pas que des fleurs. De temps en temps, il ajoutait aussi quelques mauvaises herbes et du lierre qu'il poussait en bordure de la forêt. Aussi quelques chardons au bord des fossés qui n'avaient pas été tondus. Pour aider son enfant dans son travail, le roi confia une mission à son fils aîné qui était assis à sa droite. Le roi lui dit « Va dans mon jardin, cueille quelques fleurs parmi celles qui poussent. Puis, lorsque ton frère viendra devant mon trône avec son cadeau, ôte de son bouquet tout ce qui est inapproprié à mon palais. À la place, ajoute les fleurs que j'ai cultivées. » Le fils aîné fit exactement ce que son père lui avait demandé. Lorsque son jeune frère arriva devant la salle du trône, il ôta les mauvaises herbes, le lierre, les chardons, il les remplaça par les fleurs du jardin royal. Puis, le premier fils aîné enroula de nouveau le ruban autour des fleurs afin que son frère puisse les présenter au roi. Avec un sourire radieux, le jeune enfant entra dans la salle du trône et présenta son bouquet en disant « Voici mon père, un beau bouquet que j'ai préparé pour vous. » Ce n'est que plus tard qu'il comprit que son père, dans sa grâce, avait lui-même fait en sorte de rendre son cadeau acceptable. Cette parabole nous rappelle la grâce de notre Père Céleste. Chacun de nous est cet enfant qui s'approche avec un bouquet rempli de mauvaises herbes et de bonnes œuvres. Nous pouvons nous efforcer d'honorer Dieu avec énergie et avec zèle, mais nos actions ne seront jamais réellement dignes de la salle de son trône et de sa sainteté. C'est pourquoi notre roi éternel a pourvu à tout ce qu'il fallait pour qu'en émane la sainteté qu'il exigeait. Il a envoyé son Fils éternel Jésus-Christ pour nous rendre, nous et nos efforts, dignes du ciel. La vie du Christ, exempte de péché, le sacrifice de sa mort, sa résurrection victorieuse, sont les fleurs parfaites que Dieu a préparées afin qu'elles se substituent aux mauvaises herbes de nos œuvres. C'est ainsi que nous comptons sur la manière que Jésus a de pourvoir à cette transformation. Plutôt que sur nos bonnes œuvres ou nos bonnes intentions, il remplace les actes imparfaits et empreintes du péché du bouquet de nos vies, pour les remplacer par ses perfections. Quand nous nous tenons devant Dieu dans la salle du trône céleste, tout ce que nous donnons à Dieu est rendu juste par l'œuvre du Christ accomplie pour nous. Les fleurs de Christ sont offertes par la grâce de Dieu. C'est sa grâce qui lui rend les bouquets de notre vie acceptables et agréables. Et c'est un encouragement à obéir à Christ. Bien évidemment, nous allons témoigner, nous allons faire des erreurs. Nous allons dire des choses qui ne sont pas complètement justes. Peut-être que ce ne sera pas génial. Mais Dieu comble dans sa grâce. Et le bouquet que nous présentons au roi est un bouquet magnifique par la seule grâce de Dieu. Je voudrais prier avec vous. Seigneur, tu connais nos cœurs. Tu nous as appelés à te servir. C'est une évidence de ta parole. Il n'y a aucun moyen de se détourner de cela. Il n'y a aucun moyen de dire « Moi, je n'ai pas été appelé. » Oui, tu nous appelles. Tu nous appelles à venir à toi pour nous racheter et pour nous envoyer, pour racheter ce qui nous entoure. Mais tu vois que dans nos vies, nous avons peut-être laissé des attitudes injustes. Peut-être que nous doutons de toi. Peut-être que nous doutons que tu es capable de nous accompagner là où tu nous envoies. Peut-être que nous doutons de nous-mêmes. Mais j'ai des problèmes, je ne peux pas. Peut-être que tout simplement nous refusons d'obéir parce que nous avons laissé nos vies nous accaparer et puis nous avons tellement de choses à faire que tu es passé en arrière-plan. Peut-être que nous avons laissé le péché envahir nos vies et que nous ne nous sentons plus aptes à répondre à ton appel. Quoi qu'il en soit, viens en notre aide. Nous sommes conscients que nos vies sont le fait de faire ce bouquet rempli de bonnes et de mauvaises herbes. Mais nous sommes aussi conscients que par ta grâce, tu rends nos œuvres parfaites devant Dieu. C'est toi qui appelles, ce ne sont pas nos mots qui convainquent, ce sont les tiens. Et nous te prions que tes mots soient proclamés là où nous allons, pour que de nouvelles personnes puissent te rencontrer, te connaître. Au nom de Jésus-Christ, Amen.